voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois...
Vincent Peillon, philosophe et homme politique.
Épisode 5, un spiritualisme républicain, point d'interrogation. Bonsoir Vincent Peillon.
Bonsoir.
Après votre éducation rationaliste, votre engagement philosophique, puis politique, votre réflexion sur le socialisme, c'est pour finir cette série, votre conception de la République que j'aimerais que nous interrogions aujourd'hui. Puisqu'au fond, tous les livres que vous avez écrits tournent autour de l'idée de République. Vous avez écrit un ouvrage sur l'histoire de la devise républicaine, vous avez écrit sur les penseurs républicains, sur le fondement démocratique, social et laïque de notre République comme patrimoine commun. Mais vous, votre dada, c'est plutôt le concept de républicanisme. Alors j'aimerais qu'on commence par bien distinguer, bien définir pour nos auditeurs et nos auditrices ces deux notions de république et de républicanisme. Alors pour commencer, nous sommes en 2022 aujourd'hui, tout le monde se réclame de la République, on pense au jeune parti présidentiel qui s'appelle La République En Marche, le principal parti de droite s'est rebaptisé Les Républicains, même le Rassemblement National se dit aujourd'hui républicain. Qu'est-ce que ça cache pour vous ?
Ben vous savez, c'est un peu comme quand on dit on aime tout le monde, on aime personne. Et on commence à employer un terme comme ça quand il commence justement à perdre de sa substance, de son sens, et qu'on fait un travail qui a souvent été fait dans des moments, disons, un peu d'obscurité, où la pénombre arrive, c'est-à-dire qu'on emploie les mots de l'adversaire et on les détourne de leur sens. Donc vous avez aujourd'hui, c'est vrai aussi pour la laïcité, beaucoup de gens qui se revendiquent de la République ou du républicanisme, voire de la laïcité, et qui pourtant véhiculent des valeurs qui sont totalement contradictoires. La République avec ce qu'était dans notre tradition, justement, le républicanisme auquel on va venir et la laïcité. En particulier, si on voulait simplifier, disons, pour commencer, on pourrait dire qu'aujourd'hui, la République, c'est le coup de menton, c'est l'ordre, c'est la sécurité, c'est l'identité, alors que la République, chez nous, a été... au contraire, la générosité, l'ouverture, le cosmopolitisme, la tolérance et la poursuite, évidemment, de à la fois liberté et égalité aussi, donc la question sociale, qui est totalement oubliée lorsqu'on est sur les thèmes identitaires. Donc on voit que des gens qui ont combattu la République au cours de l'histoire, aujourd'hui veulent se réapproprier ce mot, mais le réapproprier, c'est le vider de sa substance, et c'est créer des équivoques qui, si on n'est pas assez ferme, vont faire douter aussi ceux qui devraient porter et représenter les valeurs émancipatrices de la République et de la laïcité.
Donc il faut revenir au fondement de cette idée républicaine. C'est quoi pour vous la République, Vincent Peillon ? C'est une idée ? C'est un idéal ?
Oui, alors d'abord je voudrais dire, parce que c'est trop oublié, il y a quelque chose de très français qui me choque, et comme éditeur je fais publier maintenant beaucoup de livres d'étrangers sur notre République, ils la connaissent souvent mieux. Il y a un rétrécissement nationaliste du républicanisme en France, alors que notre République, depuis d'ailleurs la Révolution française, elle se vit comme universelle, cosmopolitique, ouverte aux autres, bon, avec une idée de paix perpétuelle, avec l'idée de l'ouverture sur d'autres cultures, avec... bon. Alors, en réalité, la République, elle n'est pas que française. Il y a une République en Allemagne, il y a une République italienne. Donc il faut déjà, quand on parle de républicanisme, en tout cas pour les spécialistes, conjuguer au pluriel. Nous, il y a un modèle français. Voilà. Mais il ne faut pas considérer pour autant que il doit s'imposer à tous, qu'il est le meilleur modèle. Le républicanisme n'est pas une affaire uniquement française. Des grands ouvrages sont écrits aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Amérique du Sud, qui a importé les révolutions libérales ou républicaines en 1820, bon, etc. Deuxièmement, et c'est important parce qu'il faut que vous sachiez que dans la construction de notre modèle républicain, on a eu des phases où les républicains étaient en difficulté, donc ils s'exilaient. Pensez par exemple sous le Second Empire. Et en réalité, les transferts culturels et intellectuels sur lesquels nous avons beaucoup travaillé avec Olivier Christin et beaucoup d'autres, et ça continue, montrent que nous avons forgé notre modèle français aussi dans un dialogue. Par exemple avec les Suisses, par exemple avec les Anglais. Quand Louis Blanc est exilé comme Hugo en Angleterre, il regarde, il dit « mais il y a des choses à prendre », etc. Donc, complexifions et d'une certaine façon, ne simplifions pas comme un espèce de mot d'ordre qui ouvrirait tout. Je suis républicain. Sous-entendu, les autres seraient quoi, mon ami ? Bon, non. Il y a aussi plusieurs façons d'être républicain. Et là, ça devient intéressant parce que quelle est la vôtre ? Ah, la vôtre, ça consiste à exclure les gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas de la même religion, ou ceux dont vous considérez qu'ils sont inassimilables, ou ceux qui sont... Non. Nous avons un modèle très précis depuis la Révolution française, je crois qu'il est très respecté dans le monde d'ailleurs, donc la Première République de 1792, très articulée autour de la déclaration aussi de Robespierre, dont je redis que c'est à la fois un modèle libéral, au meilleur sens du terme, celui de la Déclaration des droits de l'homme. Hein, nous sommes une république libérale, c'est-à-dire que nous croyons à la liberté des individus. C'est premier pour nous. Il ne faut pas toucher à ça. Aucune aliénation, aucun empêchement pour un individu de se construire et de faire ses choix. C'est Condorcet, c'est les autres. Rousseau, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. C'est Rousseau. C'est pas le Rousseau qu'on nous dépeint comme le maître des totalitaires. Donc, la liberté. Mais la liberté, si elle n'est pas mise en œuvre avec des dispositifs collectifs, eh bien, il y a celui qui va naître dans une chaumière, qui sera obligé d'aller travailler à 8 ans, et sa liberté, il va pas l'exercer, en tout cas pas de la même façon que celui qui va naître dans le château. Y compris s'il ne sait pas lire et écrire. Parce qu'au moment du vote, comment il fait pour forger son jugement? Pour lire même le bulletin de vote. Donc, il faut lui apprendre. Donc, il faut une école publique. Donc, il faut une instruction qui va être gratuite. Elle redevient en grande partie payante en France, obligatoire, etc., etc., ce que vous savez. Il faut aussi, parce que un pays, c'est des sensibilités différentes, il y a des histoires très longues, donc il y a, nous en avons subi, il y a des bagarres entre les catholiques et les protestants, il y a des minorités maltraitées, ce sont les juifs, il y a ceux qui ne sont ni de ci ni de ça, et qui ont bien le droit d'être quand même présents dans la cité. Donc il faut aussi construire quelque chose qui nous permet de vivre ensemble, tout en respectant les choix de chacun. Pas en lui disant, tu peux venir dans l'espace public français à la condition que tu renonces à être musulman, juif ou rien du tout d'ailleurs. Bon, et à tes options. Donc c'est le pluralisme, il faut faire vivre ça ensemble. Et puis, cette démocratie sociale, bien entendu, cette participation des citoyens à la vie publique et cette constitution qui a été très longue d'un espace de solidarité. Les retraites, ça a été une bagarre. L'accident du travail, l'assurance maladie, tous ces droits que nous avons construits progressivement. Et je tiens à vous le dire chez vous, parce que c'est très méconnu, et j'en suis très inquiet. La République s'est construite autour de deux choses. L'école, parce qu'à l'école, on forme un citoyen. Et le premier mot des instructions officielles, d'ailleurs de maternelle, refaite par mon ami Jean-Pierre Chevènement, c'était « l'école, en instruisant, éduque à la liberté ». Vous voyez déjà, ce que nous voulons faire, c'est un homme libre, une femme libre. Bon. Et de l'autre côté, ce sont les médias. Car très tôt, les républicains, dès 1830, vous savez que les journaux ont préexisté aux partis politiques. C'est à travers les journaux que s'exprimaient les courants politiques dans les années qui précèdent la révolution de 48. Et là, on a la naissance des journaux. Et là, il y a une réflexion qui dit le législateur au sens de Rousseau, c'est l'opinion publique qui venait du 18e. L'opinion publique, faut l'instruire. Alors, on l'instruit à l'école, mais on l'instruit aussi en lui disant les moyens d'éclairer ses choix. Et donc, en lui donnant de l'information véritable, ça veut dire indépendante. Ça veut dire qu'il dépend pas de quelqu'un qui paye pour. Bon. Qu'on vérifie. Bon. Avec toute une déontologie du journaliste, avec des exigences ou de la presse d'opinion, qui peut être plurielle. Mais, en réalité, par exemple, chez Pierre Leroux, les deux jambes de la démocratie républicaine ou de la République démocratique, c'est l'école et la presse libre. Et les médias libres. Ce qu'on appelle l'opinion publique ou l'espace public. Et, évidemment, l'école, moi, je crois que les enseignants font bien leur travail, mais enfin, il faut soutenir l'école dans un monde qui véhicule des valeurs qui sont très contradictoires à celles qu'on demande à l'école de transmettre. Donc là, il y a un petit paradoxe, on demande beaucoup à l'école, mais on se prive pas pour faire, à l'extérieur, véhiculer des valeurs qui sont très contraires. Et puis, on le voit bien depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, un processus qui m'inquiète beaucoup, c'est évidemment l'indépendance de la presse, la force qu'on doit donner, l'indépendance qu'on doit donner aux journalistes pour qu'ils puissent exécuter leur travail au nom de la souveraineté populaire. C'est ça. Non pas pour prendre parti, mais pour nous informer loyalement et qu'après nous formions nos jugements. Et je trouve que là aussi, les impératifs d'argent, d'instantanéité, la paupérisation d'une presse qui faisait bien son travail, conduit à ce qu'il y ait un vrai sujet. Et je l'ai vu en politique en particulier, où très souvent le travail qui devrait être fait n'est plus fait.
Alors vous avez rappelé les fondements donc de l'idée républicaine, on en est quand même à la 5e république, donc sans doute que entre le discours des fondements que vous avez rappelé et aujourd'hui, Vincent Peillon, il y a un gap, il y a un gouffre sur lequel nous allons revenir. Mais d'abord, je voudrais effectivement que vous développiez maintenant cette idée du républicanisme, puisque vous savez, en français, tout ce qui est en isme n'est pas forcément très positif, c'est même souvent assez péjoratif. Donc, qu'est-ce que ce républicanisme dont vous vous revendiquez tant ?
Je crois vraiment qu'il faut que vous gardiez en permanence comme repère, c'est pour ça que l'essai, enfin le plus complet que j'avais fait sur les penseurs républicains, j'avais pris la devise qui apparaît dans un discours, comme je vous le rappelais, de Robespierre. Parce que c'est l'articulation, ils sont pas séparés ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, ils sont liés entre eux. Il ne peut y avoir de liberté qu'à condition qu'il y ait de l'égalité. L'égalité, elle n'est pas seulement formelle, donc fraternité, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Mais vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Une égalité qui ne serait pas en vue de la liberté, ce serait de l'égalitarisme. Ce serait « je vous passe tous à la toise ». Donc, c'est l'articulation très étroite de ces trois concepts. Maintenant, cette articulation, disons, dans notre tradition, évidemment, elle peut être nuancée chez les uns ou chez les autres. Ça, c'est le patrimoine commun, oublié déjà par beaucoup. À l'intérieur des penseurs républicains, vous en avez qui vont être un peu plus vers la liberté ou vers l'individu, d'autres qui vont être un peu plus vers la fraternité, d'autres qui vont mettre dans leur fraternité qui est, disons, une solidarité effective par la question sociale, quelque chose de plus transcendant, parce qu'ils sont chrétiens, et donc la fraternité pour eux, c'est aussi... Donc vous avez toutes ces sensibilités dans le républicanisme français, et d'ailleurs, les fameux jours heureux, le Conseil national de résistance, les grands moments, ces familles, ces sensibilités distinctes se retrouvent autour de valeurs et vous verrez, sont exactement celles-là. Liberté, égalité, fraternité. Donc je dis quand même que la devise républicaine, Vichy, l'annule. C'est fini. Il nous l'enlève. Bon, donc il faut bien mesurer qu'elle a beaucoup de sens. Quand on n'est pas républicain, on veut pas de cette devise. Hein, quand la République s'est interrompue, la France continue, c'est bien l'État français, Vichy. Mais ça n'est pas la République. Et ça n'est donc pas la devise. Et d'ailleurs, il l'enlève. Bon. Donc, c'est ça le républicanisme français. Après, je crois, avec les années, qu'il doit être autant un espace d'interrogation que d'affirmation. Vous voyez, par exemple, quand je vous dis ça, je pourrais en parler évidemment des heures, j'écris des centaines de pages, je vais dans des tas de colloques, on peut travailler, mais il faut pas être trop affirmatif. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est très beau dans la République, c'est qu'elle s'interroge en permanence. Et plus j'avance en âge, plus je me dis, même par rapport à mes connaissances, ce que je découvre toujours, c'est davantage d'inquiétude, d'incertitude, de différence, de bouger. Et c'est fondamental de laisser ça, vous voyez. Autrement dit, comme disait mon maître Buisson, la République, c'est pas une orthodoxie, et la laïcité, ça n'est pas une orthodoxie à rebours. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont pris la République et la laïcité pour devenir de nouveaux inquisiteurs. Ils ont des dogmes, ils ont une foi, et ils désignent les ennemis, ils mènent des croisades, on les a vus, et en particulier M. Blanquer et ses amis avec l'islamo-gauchisme ces dernières années. Moi, je crois exactement à l'inverse. Je suis de la tradition inverse, qui inclut y compris des libéraux ou des gens comme Raymond Aron. C'est-à-dire, je pense qu'en réalité, précisément, il faut en permanence aussi s'inquiéter soi-même. Commencer par douter de sa propre affirmation, avoir cette intelligence finalement fondamentalement cartésienne du doute, de se dire attention là je suis en train de dire la République c'est ça, mais si c'était pas tout à fait ça, et si c'était ça aussi, et voilà. Et ça, quand vous êtes dans une salle de classe, si vous arrivez à transmettre ça aux élèves, aux enfants, vous transmettez beaucoup. C'est-à-dire, vous n'enseignez pas des dogmes, vous n'enseignez pas un catéchisme républicain, vous enseignez la liberté de penser. Et la liberté de penser, c'est l'essence de la République. Au fond, Nicolet, l'historien, grand historien, avait dit ça, et je crois que c'est assez juste. Il y a un lien, on en avait parlé avec Vernant, Jean-Pierre Vernant, entre la naissance de la philosophie et la naissance de la démocratie en Grèce ancienne. Eh bien, dans la République, quelque part, l'idéal de la République, ce serait que tous les citoyens soient des philosophes. Philosophe, c'est pas monsieur je sais tout, c'est monsieur qui s'interroge, c'est monsieur pour qui la question est importante, toujours. Relancer la question. Et dans le fond, dans la République... ceux qui font peur, ce sont les intolérants, ce sont les dogmatiques, ce sont les orthodoxes, ce sont les inquisiteurs, ce sont ceux qui veulent scruter les cœurs et les reins et assigner chacun à sa place. Le républicain est quelqu'un qui doit maintenir en permanence aussi le sentiment que... et c'est aussi pour ça que les républicains avaient fait de la classe de philosophie au début de la troisième, la classe qui vient couronner les études secondaires. Car il fallait qu'il y ait ce moment où tout d'un coup, on n'enseignait pas simplement une instruction civique. On enseignait, c'est un enseignement laïque de la morale, donc qui s'interroge sur les fins humaines, sur pourquoi nous vivons en société, qu'est-ce qu'une société juste, mais qui ne dit pas « c'est ça une société juste ». Ceux qui disent « c'est ça » et qui sont absolument convaincus de détenir la vérité sont déjà des dangers pour la démocratie.
Qu'est-ce qu'il faudrait remettre en question, puisque vous dites que le républicanisme doit être en permanence interrogé. Pour certains, le discours républicain et universaliste sonne creux aujourd'hui, sonne creux notamment hein, aux oreilles de celles et ceux qui se disent ségrégés socialement, territorialement, parfois même discriminés, certains rappelant qu'une certaine république a justifié le colonialisme, enfin voilà. De temps en temps, on sent aujourd'hui que cette idée républicaine est récupérée par une partie des idées nationalistes et réactionnaires, et puis de l'autre côté, qu'elle peut vaciller, parce qu'elle vacille dans ses fondements, par un discours incantatoire qui n'a rien de réel, par un discours qui fait appel aux origines philosophiques et aux droits, mais qui se heurte aux faits et donc à l'histoire que nous avons traversée.
Non, c'est une régression terrible pour des raisons politiques de la réflexion, en particulier cette notion d'universalisme qui est employée par des gens qui manifestement ne savent pas ce que ça veut dire. Donc vous avez une universalité qui est celle des mathématiques, disons, ce qu'on appelle la nécessité, 2 plus 2 égale 4 et 2 plus 2 ne peut pas faire 3, d'accord, mais ça marche pas dans le domaine moral et politique. Et tous ceux qui ont cru qu'on pouvait appliquer les mathématiques à la politique, d'accord, on fait quand même dans l'histoire, et donc leur raison pouvait devenir la raison des choses politiques, on fait quand même des drames historiques. Donc malheureusement, il n'y a pas de passage, si vous voulez, de la science exacte à la politique. Et malheureusement, ou peut-être, heureusement, parce que ça laisse une marge pour la liberté. La nécessité, ça veut dire, c'est la définition du mot, ça ne peut pas être autrement. La contingence, ça peut être autrement. C'est le début de la liberté. Mais alors, c'est plus bancal. Faut avancer avec moins de certitude. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que les gens qui nous parlent très souvent d'universalisme ne savent même pas ce que ça veut dire en réalité. Car dans notre tradition philosophique, si vous laissez tomber les sciences exactes, le modèle apodictique, comme on dit, l'universel a toujours été, c'est la formule de Sartre, un universel concret ou oblique, comme disait. C'est-à-dire, c'est un idéal. Mais qui ne consiste pas à commencer par éradiquer les différences, mais à les inclure. À les inclure, les différences. Soit je considère, dans le fond, c'est Rome, c'est l'Inquisition, que je possède l'universel et que tous les autres sont des hérétiques. C'est ce modèle qui est en train de triompher à nouveau. Mais enfin, c'est pas vraiment la modernité, hein. C'est une revanche. Bon. Soit vous avez un modèle d'universel, qui est celui qu'on essaie de construire depuis ce qu'on appelle la Renaissance, qui est un universel, alors présomptif aussi, comme des essais, que je dois viser, mais surtout pas m'en sentir, moi particulier. On avait évoqué cette idée dans un entretien précédent, le dépositaire. Bon, l'universel, il faut que celui que j'inclus dans l'universel accepte d'y être inclus aussi. Parce que si je fais un coup de trique, un coup de bâton ou de menace, bah ça ne donnera pas grand-chose. Il fera « oui, vous avez raison, monsieur, mais à la moindre occasion ». Tout doit reposer sur un assentiment intérieur, la liberté. On n'entre pas vis-à-vis d'un être humain en disant « tu dois penser ça ». On doit le convaincre, y compris la laïcité, que c'est bon pour lui. Si vous imposez par la règle et la violence votre pouvoir, qui est le pouvoir ? L'autre, il va baisser la tête. Mais à un moment, il s'en souviendra. Et je peux vous dire, parce que j'appartiens évidemment à une catégorie de Français qui a été très minoritaire dans ce pays, que c'est comme ça. Quand on vous impose des choses, y compris des violences à l'égard de votre histoire, de votre communauté, comme on dit, eh bien, parfois, on ne peut rien dire. Mais on s'en souvient. On s'en souvient parce que ce sont des blessures profondes. Donc, l'universel démocratique, mais qui est aussi un universel intellectuel, et rationnel, c'est un universel qui inclut, comme le disait Hegel, identité de l'identité et de la différence. Ça, c'est vraiment scolaire, ça a déjà 2 siècles, mais l'identité, elle doit inclure la différence. Et la différence doit dire si elle considère qu'elle est inclue dans l'identité qu'on lui propose. Il faut lui laisser cette liberté. Là, on avance vers un universel intéressant, mais qui n'est pas celui dont parlent les universalistes autoproclamés d'aujourd'hui, qui sont souvent des particularistes éhontés.
Qui sont les adversaires, voire les ennemis de la République aujourd'hui, selon vous, Vincent Peillon?
Je pense qu'ils sont assez nombreux et ils ne savent souvent pas qu'ils le sont. Ce qui se cache derrière, et on le sent dans la société, c'est une vraie volonté d'affrontement. Donc on utilise des concepts, la laïcité, la République, etc. Mais en fait, en réalité, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est s'affronter à certains. Or, nous avions parlé de ça. C'est-à-dire que l'histoire, elle est tragique. Une conscience ne se voit pas comme l'autre conscience la voit. Et ce malentendu va créer le conflit. Vous comprenez, il va créer le conflit. Comment l'antisémitisme est-il possible? Comment les gendarmes français sont-ils allés chercher des enfants pour... Mais c'est une réalité historique. Dans d'autres pays, il y a des génocides, il y a des violences. Regardez ce qui se passe. La violence de ce qu'on voit actuellement en Iran, mais dans tant d'autres endroits. Des jeunes filles qu'on tue après les avoir battues à mort, etc. L'être humain est capable de ça. Il l'a toujours été. Bon, donc je crois que malheureusement nous sommes dans un moment où certains, vous savez Pascal, le grand Pascal, disait il y a toujours des méchants quand il parlait du droit. Il faut le savoir. Ça veut dire qu'il faut donner la justice ne suffit pas. Il faut donner la force à la justice. Et ce qui est un peu dommage dans ce que nous avons fait nous ces dernières années, c'est qu'on n'a pas donné de force à la justice. C'est-à-dire que l'échec des socialistes. D'une certaine façon, peut-être aussi de l'opposition démocratique de droite ou des gouvernants de droite, c'est que ça a des conséquences très lourdes. Alors, on ne faisait peut-être pas tout très bien, mais il fallait quand même tenir ce centre et ce pouvoir pour éviter un certain nombre de dérives qui sont toujours prêtes à venir. Donc, on voit, enfin, moi, je ressens, en tout cas, énormément de conflictualité. Alors, une des expressions pour un philosophe ou quelqu'un comme moi, vous savez, vous aviez cité Paul Valéry, j'avais pas rebondi, je crois, dans notre premier entretien. La première phrase du monsieur Tess, c'est « la bêtise n'est pas mon fort ». Alors, elle n'est pas très citable, parce qu'elle fait très prétentieux, mais quand on lit Valéry, c'est quand même l'effort de pensée, l'effort de clairvoyance, l'effort de jugement, l'effort d'instruction, doit pouvoir éviter cette conflictualité bestiale qui demeure toujours, l'ange et la bête, hein, qui demeure toujours et qui, par un certain moment de l'histoire, peut ressurgir. Et aujourd'hui, je crois que, et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas que la gauche soit crispée sur elle-même et sur ses petits clans, il faut justement se donner de la force, donc s'ouvrir vers les autres. S'ouvrir vers les autres. Et vous voyez bien que, aussi une des grandes difficultés qu'on a eues, c'est tout cet électorat populaire qui va maintenant sur les thèses du Rassemblement National, c'est-à-dire du racisme, de la xénophobie qu'on a connue à d'autres moments de notre histoire. Et il faut pas se fermer, il faut construire un projet qui puisse inclure tous ces gens-là, tout en laissant évidemment totalement de côté ces valeurs xénophobes, enfin ces non-valeurs xénophobes, ou ces idées-là. Mais il faut pas que la gauche se rétracte. Il faut au contraire qu'elle reprenne de l'ampleur. Et ce que je dis, de là où je le dis aujourd'hui, ça vaut aussi d'ailleurs pour la droite républicaine. Il faut vraiment reprendre du souffle et être capable, parce que nous avons l'impératif d'être forts, en fait. C'est un impératif politique. Et c'est le plus triste dans notre histoire. Ce que nous savions, évidemment, on connaît l'histoire, on connaît les limites de la gauche, mais nous savions qu'il y a là, si vous voulez, dans l'exercice par la gauche du pouvoir, quelque chose qui protège la communauté des citoyens, et aussi dans les alternances avec une droite républicaine. Mais on sait qu'il y a d'autres aventures possibles. La France en a déjà connu, l'Europe en a déjà connu. Bon, donc, et là, quand on a soi-même fait preuve de faiblesse ou qu'on a échoué, on a potentiellement, c'est arrivé à d'autres moments, une responsabilité évidente.
Est-ce que les grands mouvements, la tectonique des plaques que la société française connaît depuis quelques années, je pense au mouvement féministe, je pense à l'écologie, je pense au mouvement dit woke, qui ne touche d'ailleurs pas que la société française, tous ces mouvements bien entendu, mais est-ce que ces mouvements en France, disons, sont à même de faire bouger les lignes républicaines? Est-ce que vous les voyez d'un bon œil, d'un mauvais œil, d'un œil nuancé? Comment les regardez-vous? Est-ce que vous vous sentez concerné, Vincent Peillon?
Moi, je suis passionné par ces mouvements et accablé. Rétrospectivement, bon, je viens d'une famille, par exemple, je l'ai évoqué, où mes femmes étaient très militantes, très féministes, et même les hommes, hein, en luttant pour donner aux femmes les moyens de leur indépendance. Je pense à mon oncle Étienne-Émile Beaulieu. Mais si vous savez ce que j'ai vécu dans la vie que j'ai vécu de phallocratisme au sein des instances politiques, de comportements inadaptés, etc. Bon, d'ailleurs, tout va très vite. Je vois mes enfants, mes filles, mes garçons, mes gendres. Les attitudes ont beaucoup changé déjà. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui croit à l'universalité du genre humain. Donc on croyait déjà bien faire, et là, ça va beaucoup plus loin. Et je souhaite que ça aille beaucoup plus loin. Et je trouve que les socialistes devraient considérer que c'est leur combat. Après, vous avez la même chose sur la question de la colonie ou de l'ethnicité. Ou de... Ben, bien entendu. Je ne veux pas prendre des exemples particuliers, mais regardez les grands corps de l'État, regardez les ministères, regardez ce qu'a vécu Madame Taubira, regardez ce que vivent ceux qui, pour la première fois, arrivent aux responsabilités alors qu'ils ont une autre couleur de peau, une autre histoire. La violence, ce déchaînement, cette minablerie, cette honte. Bon, mais ils sont là encore, les racistes, les xénophobes, les antisémites, ils sont là. Donc c'est un combat permanent. Donc tout ça est très important, la gauche doit le prendre en charge. Alors où se passe-t-il quelque chose ? C'est que, et ça, je dois dire que c'est ce qui se perd aussi un peu. Ça, ce sont des mouvements de société, ce sont des mouvements intellectuels. Il faut leur donner un débouché politique. La politique, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas être contre, il faut les accompagner, il faut s'y inscrire, il faut leur donner un débouché politique, comme on dit. Et donc, ça ne signifie pas que je suis pour tout, il peut y avoir des excès, etc., mais il faut leur donner un débouché politique concret. C'est ça le rôle du politique. Les combats sociaux, qu'ils soient des combats dans l'usine, qu'ils soient des combats par les grèves, qu'ils soient des combats, ou qu'ils soient des combats sociétaux, eh bien, c'est le rôle du politique, en tout cas quand il est socialiste et de gauche, de leur donner des débouchés politiques. Donc moi, je suis très intéressé. Je le suis d'autant plus qu'étant un spécialiste, un historien des idées du 19e, ça m'oblige à relire beaucoup de choses différemment. Vous savez, c'est inépuisable la lecture. Donc je peux prendre un texte, le discours de la méthode, la 38e fois où je vais le lire, je découvre encore des choses dedans. Eh bien, si je regarde mon début de Troisième République, si je prends maintenant les nouveaux travaux sur la République coloniale, sur etc., eh bien, je relis des textes avec un regard neuf et intéressant et qui enrichit, bien sûr.
On arrive au terme de ces entretiens, Vincent Peillon. Je voudrais vous donner à entendre deux phrases que vous connaissez nécessairement, d'autant que au moins l'une des deux, je l'ai trouvée dans un de vos ouvrages, et je voudrais que vous les commentiez. La première, c'est une phrase d'une lettre écrite par Günther Anders à son neveu David, qui était né à Jérusalem le jour de la proclamation de l'État juif, et cette phrase dit « Ne perds jamais le sens du lointain ». Que pensez-vous de cette phrase ?
C'est une phrase que j'ai citée en pensant aussi à mes enfants, si vous voulez, parce que vous comprenez bien que la tentation dans cette vie, enfin dans cette constitution qui est celle de chacun d'entre nous, c'est un rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est une inspiration, une expiration, et donc nous avons, c'est un abaissement et une élévation, et il faut se fixer un certain nombre de règles. Et donc, c'est pas l'amour du prochain qui compte, comme on dit dans une certaine tradition, c'est l'amour du lointain. Et ce que dit Günther Anders, dans un moment très cruel pour lui, c'est qu'il dit qu'il ne faut jamais faire de mur, il ne faut jamais fermer les fenêtres, il ne faut jamais fermer les portes. Et je crois que c'est un enseignement qui doit être gardé.
La deuxième est de Jean-Pierre Vernant, bien entendu, dans La traversée des frontières. C'est cette vie qui donne sa dimension héroïque à l'existence, qui fait qu'il vaut mieux vivre peu et mourir en plein combat que vivre très longtemps et mourir dans son lit sans s'être élevé plus haut que l'ordinaire.
Ce qui nous renvoie, là c'est un homme impeccable, c'est un grand résistant, jeune, c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui a risqué sa vie, mais ça nous renvoie dans ce qu'il dit là, et qui est une des questions qui m'a taraudé dans mon échange souvent, et même après sa mort avec Vernant, c'est la question de la transcendance. C'est dans le fond, qu'est-ce qui nous dépasse, voyez, et qu'est-ce que nous devons choisir dans notre existence qui nous dépasse. Nous avons un choix sur cette transcendance. Il y a dans cette phrase quelque chose qui dit ça. Il y a quelque chose de plus dans la vie que la vie.
Merci beaucoup Vincent Peillon. C'était À voix nue par Caroline Brouet, assistée de Daphné Abgral, la prise de son Bruno Mourlan et Marie Le Peintre, à la réalisation Assia Khalid. Une série à réécouter et à podcaster, bien entendu, sur le site de France Culture et sur l'application de Radio France.